Mes chéris, où sommes-nous?
Nous avons mis pied là où le meilleur de la culture locale alternative se trouve. Musique, littérature, danse, art visuel et cinéma. Il s'en passe des choses ici.
Vous venez d'atterrir à Chéri J'arrive sur zone de schiste 94.3 à Québec. Pour être à jour sur tout ce qui se passe dans la culture émergente, locale et d'ailleurs, c'est Chéri J'arrive qu'il faut écouter. Du mardi au jeudi de 16h à 17h30.
Je voudrais bien rester, mais seulement si on trouve un loyer abordable.
Vous aimez découvrir de nouvelles niches musicales et sortir de votre zone de confort? La Lézarde vous invite dans son repère sonore. Une émission de radio dédiée aux découvertes musicales inusitées, rafraîchissantes et audacieuses. Votre hôte Kim Rose Marlowe vous attend les lundis à 11h avec un contenu éclectique et surprenant. La Lézarde, c'est sur Chiz 94.3.
Étudiants et étudiantes de deuxième cycle, connais-tu les services offerts par l'Allier? C'est facile. Les assurances collectives, la SEC, le soutien financier et commandite, accompagnement droit étudiant, les retraites de rédaction, l'agenda universitaire, les services aux assos et le pass universitaire. Pour nous rejoindre, c'est facile. Envoie juste un courrier à allier@commercial.ulaval.ca.
Cherche une salle professionnelle abordable pour produire un événement en plein cœur du centre-ville de Québec? Un atelier privé ou un espace commun pour travailler sur ton entreprise culturelle? Que ce soit pour la musique, le montage vidéo, la photo, la couture, le tatou ou tout autre projet créatif, le centre est là pour toi. Pour en savoir plus, appelle au 418-261-6969 ou écris-nous sur Instagram et Facebook en cherchant le centre Hub Créatif. Le Centre, ton lieu de création en plein centre de Québec.
La simulation francophone des Nations Unies de l'Université Laval est fière d'être retour cette année pour sa 12e édition du 5 au 8 mars 2026. La CIFNUL réunit chaque année des personnes étudiantes de divers horizons pour s'initier au monde de la politique et de la diplomatie internationale. Cette année, les personnes participantes auront l'occasion d'élaborer des travaux portant sur la liberté de presse. Pour trouver le formulaire d'inscription et pour plus d'informations, retrouvez-nous sur Facebook et Instagram en inscrivant SIFNUUL. Les inscriptions se terminent le 31 décembre.
Faites vite. Tu tranches, allez. Tu frappes un animal. Ton char part plus. Puis, une créature bien spéciale te rend visite. On souhaite ça à personne. Sauf à Dominitri et Anna Plume, Dieu donné roi. Parce que là, avec eux, ça fait un ben bon show. Premier acte et Mathilde Eustache présentent Des hamsters dans le frigo, du 18 novembre au 6 décembre. Un spectacle fort en émotion, en musique et en magie. Pour toute information ou pour vous procurer des billets, rendez-vous sur premieracte.ca.
Premier acte remercie ses partenaires de saison. La Caisse des Jardins de Québec, la Caisse d'économie solidaire, Hydro-Québec, Le Soleil et la Fabrique culturelle.
Il est 4 heures.
À tous, vous êtes à l'écoute de Chéri J'arrive, votre retour culturel alternatif. On est mardi le 2 décembre 2025, les 16h02 et 45 secondes. Et aujourd'hui, c'est une émission qui sera sous le thème de la littérature parce que à 16h, on reçoit Julie Collin qui est responsable des événements et des communications chez la librairie La Liberté. Celle-ci va nous faire une chronique littéraire sur des livres à offrir ou à s'offrir à soi-même. Par la suite, à 16h30, on va parler avec Fanny Razurel de la Maison de la littérature. Celle-ci va nous faire sa chronique mensuelle pour nous parler des différents événements qu'il y a lieu dans les murs de la Maison de la littérature. Et sinon, à 17h, on va parler avec Alex Tremblay-Lamarche pour une chronique littérature à saveur historique. Alors, tel qu'annoncé, je suis très heureuse de recevoir Julie Collin en studio. Bonjour!
Allô, allô!
Est-ce que tu dirais que décembre, c'est dans tes mois préférés de l'année? Je le sais pas. J'irai pas jusque-là. Malgré les apparences, là, c'est sûr que les auditrices, les auditeurs ne le voient pas. Je suis pas une personne qui fête Noël, mais je trouve ça très drôle de souligner le temps des fêtes à la librairie La Liberté. Donc, depuis que je suis libraire, ça fait quand même quelques années, je porte tout le mois de décembre une guirlande lumineuse.
C'est
en fait, c'est la deuxième guirlande lumineuse. Mon autre est morte.
Oh,
il y a quand même peut-être un, deux, trois ans, là, mais je m'en suis procuré une autre qui est un peu différente, évidemment. J'ai pas pu trouver la même que j'avais.
Mais vu que vous la voyez pas, c'est une guirlande lumineuse, mais il y a des petits pompons au travers.
Oui.
Là. C'est full festif.
Oui, c'est ça. Celle-là, il y a des pompons. Mon ancienne n'avait pas de pompons, puis c'était un peu plus de type, je sais pas, un peu plus, ben pas flocon de neige, mais un peu, là, quasiment. Ça avait plus l'air de ça. Elle était très, très, très blanche. Tu sais, les lumières là, étaient très blanches, très, très flash. Ceux-là sont un peu plus jaunes. Tu sais, c'est un peu plus discret.
C'est coloré, on aime ça.
C'est coloré. Donc, j'ai des pompons de toutes sortes de couleurs, le rose, bleu, jaune et tout ça. Fait que, ouais, je me promène tout le mois de décembre avec ma guirlande lumineuse. Puis, c'est assez pratique parce que, en librairie, quand les clients me voient, ils se doutent bien que je travaille là puis que je peux les aider dans leur cadeau de Noël.
C'est vrai.
C'est assez vrai. Pratique, ça.
Surtout avec ton magnifique chandail, mon temps des fêtes est booké avec des livres qui sont placés en sapin. Là, c'est trop parfait.
Avec des lumières et tout ça. C'est que, ouais, j'ai mon petit look du mois de décembre. Mais tu sais, je sais pas si c'est un mois préféré ou peu importe. Parce que comme je dis, je fête pas vraiment Noël, mais c'est un mois qui me rend très heureuse en librairie, en fait. Les gens veulent acheter des livres pour les offrir, pour s'en offrir à soi aussi.
100%.
Ça me plaît. J'aime ça, le fait que les gens s'offrent des livres.
Ouais. Puis ben justement, tu nous offres une chronique sur des livres justement à s'offrir ou peut-être même à offrir aux autres.
Ben oui, puis là, j'en ai choisi trois aujourd'hui, mais j'aurais pu en choisir plein d'autres là. Ça dépend un peu comment je me sens le jour que je prépare ma chronique là. C'est qu'il faut pas mal le prendre, puis peut-être aussi que je vais en proposer d'autres une autre fois aussi d'ici la fin décembre d'autres livres. Donc là, j'ai eu envie de commencer avec Simon à sa journée dans le corps de Simon Poulris et Camille Lavoie. C'est paru chez Le Robert Québec. Le Robert comme dans le dictionnaire,
ça,
Le
là.
Robert. Et c'est un livre où Simon Boulris présente différentes expressions québécoises dans un récit qui met en scène Simon, évidemment, un peu comme son titre l'indique. Donc, on va avoir des expressions comme être sur le gros nerf ou avoir la tête enflée ou par la peau des fesses, ce genre d'expression-là qui s'insère dans un récit. Puis ça nous montre aussi... c'est ça, comment il évolue dans sa journée. Ça commence entre autres par une partie de soccer où est-ce que ça se passe pas super bien, puis finalement, il réussit à faire gagner son équipe, ben là, ça lui fait enfler la tête, hein, évidemment, là, parce que c'est grâce à lui, évidemment, que l'équipe a gagné, tu sais, alors que c'est plus un travail d'équipe. C'est ça, c'est que c'est super intéressant, et il y a les aquarelles de Camille Lavoie qui accompagnent tout ça.
C'est ça,
au
c'est
fil
un livre
des pages.
Illustré.
Absolument, c'est un livre qui s'adresse aux enfants, mais comme adulte, on peut y trouver du plaisir aussi. C'est le genre de livre qu'on peut très bien lire à deux, là, ou en fait, adultes et jeunes ensemble. Puis je suis certaine que les adultes vont apprendre des choses aussi dans les expressions, parce qu'il y en a quand même plusieurs expressions québécoises. Assez simples de façon générale, mais des fois, on ne sait pas exactement ce qu'une expression veut dire, par exemple.
C'est ça. Puis est-ce que dans le livre « 6 mois, sa journée dans le corps », pardon, est-ce qu'on voit justement les définitions en bas de page, justement?
Oui, plus clair que ça, en fait. Oui, il y a vraiment le texte sur une page, puis il va avoir le nom de l'expression en haut, et entre parenthèses, il va avoir ce que ça veut dire. Donc, tu sais, par exemple, par la peau des fesses, ben, il peut être écrit en parenthèse de justesse. C'est que là, OK, c'est ça que ça veut dire, d'accord.
C'est vrai, puis il y a même des expressions comme ça dans notre jargon qu'on utilise, peut-être même sur une base régulière ou. Puis qu'on se pose même plus la question sur c'est quoi, justement, les synonymes qui sont associés, justement, à ces expressions québécoises-là.
Ou encore, on l'utilise, mais pas de la bonne façon.
C'est
ça se peut
100%.
Aussi. Des fois, on a toujours entendu cette expression-là, mais c'est pas ça que ça veut dire. Exactement, où on utilise une expression, mais la variante, tu sais, c'est pas tout à fait ça de cette expression-là, ou peu importe, en tout cas, ça.
C'est vraiment très sympathique comme livre. Là. Simon a sa journée dans le corps avec plein d'expressions et plein de belles aquarelles.
Si vous voulez comment en apprendre plus sur les expressions québécoises, que ce soit pour vous-même ou avec un enfant ou quoi que ce soit.
Oui, puis comme il y a une histoire aussi, ça amène aussi à réfléchir sur l'histoire. T'sais, est-ce que c'est une bonne chose que Simon a la tête enflée cette journée-là? T'sais, que sa tête, elle passe plus là, par le cadre de porte? Peut-être que c'est pas une bonne idée. T'sais. Fait que, c'est un peu tout ça. Fait que, j'ai bien aimé ça. Un petit livre vraiment bien sympathique. Mon deuxième choix, c'est Nostalgie sans dessert rétro revisité d'Antoine et Philippe aux éditions de L'Homme. Est-ce que tu connais la Paperman rose? T'as déjà vu ça?
Ben, le bonbon, là.
Oui, exactement. Exactement. Mais eux autres, ce qu'ils ont fait, Antoine et Philippe, c'est qu'ils utilisent ce genre de trucs-là qui sont très, très, très nostalgiques. Ouais. Tu sais, c'est très grand-maman et grand-papa, là, des Paperman roses. Puis ça, ils se sont dit, mais crème, on pourrait en faire des biscuits. On les voit sur la couverture, d'ailleurs, là, les biscuits roses. Donc, à la Paperman rose, ça goûte la menthe, évidemment.
Ils ont l'air très bons.
Ils ont l'air très bons. Ils le sont. J'ai déjà goûté. J'ai eu cette chance. Donc, ça fait partie des biscuits ou des autres desserts qu'ils vont revisiter. Ils vont prendre des ingrédients qui font appel à une nostalgie, à des choses qu'on a vécues ou pas, avec des grands-parents, par exemple, puis ils vont en faire quelque chose qui va être un peu plus modernisé. Des fois, ils aussi font de la fusion entre différents desserts. Par exemple, on connaît le gâteau carotte. Mm-hmm. On connaît le renversé aux ananas. Mais si on faisait un gâteau carotte renversé aux ananas.
Incroyable. Wow.
Tu sais, tu comprends?
Tu l'as nommé, puis j'ai genre l'eau à la bouche, là.
Mais tu sais, mettons, des passions flequis, la petite boîte de gâteau. Ben là, mettons que tu te dis, hey, cette saveur-là, je pourrais en faire une tarte. Tu sais, c'est des choses comme ça qui sont vraiment créatives, d'où le fait qu'on parle de classique, rétro, revisité. C'est qu'ils sont vraiment forcés pour que ça soit différent dans la forme du dessert. Donc, sans dessert, c'est parce qu'il y a aussi plein de variantes. Par exemple, les carrés Rice Krispies, on connaît tous ça. Ou en tout cas, mettons qu'on est 99,9% des gens à l'écoute qui connaissent ça, qui ont déjà vu ça dans leur vie au moins une fois, s'ils n'ont pas déjà goûté. Mais là, après ça, on peut en faire des variantes. Pourquoi qu'on en ferait pas une variante à la limonade rose, par exemple? Hein? Voyons donc. Aussi, qui ont pêché ces idées-là. C'est ça qui est un peu surprenant. Puis eux autres, ils se présentent comme étant des gens qui font des desserts, mais pas comme des gens qui font de la pâtisserie. La nuance, c'est que c'est pas si précis que ça, ce qu'ils font. Pour eux autres, c'est le fun. C'est pas des pros au sens élitiste du terme. Là. Pour eux autres, c'est on fait des bonnes affaires qui goûtent bon.
Puis c'est adapté.
Qui sont bien faites.
C'est adapté à tout le monde. C'est en ça, fait, le n'importe qui aime cuisiner puis qui aime faire des desserts, peuvent trouver leur compte avec c'est Nostalgie, ça. Sans dessert rétro revisité.
Oui, puis on peut avoir aussi les bases à l'intérieur de ce livre-là. Ils vont nous partager des outils qu'ils utilisent, des bonnes techniques. Donc ça va être des petites choses de base pour qu'on devienne un peu meilleur. Et je vous le présente à ce stade-ci de votre vie, en ce 2 décembre, parce que c'est peut-être la bonne période aussi pour réfléchir à quel dessert on aimerait apporter dans nos différents événements du temps des fêtes. Puis évidemment, avant d'apporter des desserts comme ça pendant le temps des fêtes à des gens, il faut s'assurer de ne pas les empoisonner. Il faut y goûter.
Il faut tester les recettes.
Il faut les tester. Parce que imaginez si vous vous trompez dans la recette. Ça
serait catastrophique.
Faites des biscuits à la Paperman rose, il faut y goûter pour s'assurer que c'est correct. Puis il y a beaucoup de ces desserts-là aussi qui se congèlent. C'est vraiment pratique, vraiment intéressant. Donc, plein de desserts comme ça qu'on peut découvrir dans Nostalgie, sans dessert rétro revisité, d'Antoine et Philippe aux éditions de L'Homme avec une préface de Jeannette Bertrand. C'est pas plate, hein?
C'est pas plate, mais en plus que la première page de couverture est vraiment alléchante. Là, comme,
tout le graphisme est comme ça.
C'est très rétro aussi dans son esthétique.
Tout à l'intérieur, c'est comme ça. Là, ça a vraiment de la gueule comme livre, ça s'offre super bien.
Il n'est pas trop dispendieux pour un livre de cuisine.
Absolument
là.
Pas.
C'est comme ça se détaille à une trentaine de dollars.
Ça a vraiment beaucoup de sens. Allez-y allègrement, puis bonne dégustation.
Et sinon, tu nous transportes dans l'univers de l'humour, plus précisément au Bordel Comedy Club.
Oui, c'est un club qui existe à Montréal depuis 10 ans. Et pour le 10e anniversaire, ils se sont dit, ben crime, on va sortir un livre, une rétrospective de ce qu'on a fait. Puis on va aller beaucoup plus loin que ça aussi. C'est pas juste un livre avec des souvenirs là, des 10 ans. Il y a des textes originaux à l'intérieur. Donc, par exemple, si je veux plus précisément, c'est 10 ans de rodage. Le Bordel, ça a été fondé par plusieurs personnes. François Bellefeuille, Charles Deschamps, Louis-José Houde, Laurent Paquin, Martin Petit et Mike Ward. Donc, chacun présente aussi un texte original en début de livre. C'est un livre là, qui est un livre rigide qu'on peut laisser traîner sur une table de salon là, sans problème. C'est quand même un beau livre. Donc, on a leur texte à eux autres qui ouvre le bal. Et par la suite, on a une série de conversations entre humoristes. Donc, deux humoristes qui discutent ensemble de différentes choses avec humour, des fois avec tendresse aussi. Là, ça peut aller dans une sorte de direction.
Et c'est quasiment comme les arrière-scènes justement du Bordel, de tous les podcasts qui ont été filmés là, de toutes les shows d'humour. On a un peu un accès aux loges.
C'est ça, un accès aux coulisses, tout à fait. Puis après ça, parce que ça prenait encore plus que juste des conversations entre humoristes, bien, il y a vraiment une section où c'est des anecdotes et des secrets. Donc, on a accès à un paquet de choses dans ce livre-là. J'ai pas encore fini de lire tellement qu'il y a de choses à lire. Sinon, je vous en aurais parlé dans 2 semaines. Puis là, je me suis dit, j'ai envie de vous en parler maintenant. C'est que c'est chose faite. Donc, un beau livre à découvrir, à offrir à des gens qui aiment l'humour. Nul besoin d'avoir fréquenté le Bordel ou pas.
Il y a tellement des humoristes qui ont marqué des générations puis sont encore importants dans le paysage humoristique québécois, que pour tout fan d'humour, c'est un livre qui va être 100% adapté.
Oui, puis tout fan d'humains aussi, parce que c'est des humains avant tout. Donc, il y a plein de choses qu'on peut découvrir dans ce livre-là. Puis le Bordel, c'est un endroit où les humoristes vont tester du matériel. Tu sais, c'est pas des spectacles complets comme d'habitude. Là. C'est vraiment un endroit où tu testes des choses. C'est que c'est sûr que de tester des numéros avant d'en faire un vrai spectacle en continu qui va en tourner, c'est sûr qu'il peut se passer toutes sortes de choses aussi. C'est que vous allez avoir accès à plein d'informations. Là. C'est vraiment super chouette à offrir ou à s'offrir. C'est le Bordel Comedy Club, 10 ans de rodage, entre autres avec François Bellefeuille, Charles Deschamps, Louis-José Houde, Laurent Paquin, Martin Petit et Mike Ward. C'est chez K.O. et Édition.
Et sinon, il y a plein d'événements qui s'en viennent dans les prochaines semaines à la maison de à la librairie La Liberté, pardon. C'est des bons moments aussi pour venir dédicacer des livres qu'on voudrait offrir ou s'offrir à soi-même pour le temps des
Absolument.
Fêtes.
Absolument. C'est ça l'idée en décembre à la librairie La Liberté. On fait très peu, parce que tu sais, là, on est encore au mois de décembre, puis il y a une activité, une causerie. Il y en a une de ce jeudi, une ce vendredi, mais après ça, il n'y en aura plus. Là. C'est terminé pour le reste du mois. On est vraiment plus dans un mode de dédicace pour offrir des cadeaux personnalisés, pour aussi avoir de l'espace, parce que c'est sûr que nous, quand on fait une causerie, on installe des chaises, ça fait en sorte qu'il y a moins de place pour que les gens puissent circuler. Les gens circulent très bien en général, mais en décembre, il y a beaucoup de gens dans la librairie.
C'est sûr,
Si on veut offrir une expérience de magasinage qui est intéressante, mais c'est un peu incohérent avec le fait de faire des causeries. Là. C'est qu'on est comme ça à la limite cette semaine, c'est encore correct, mais à partir de la semaine prochaine, on sait que ça sera plus possible. C'est qu'on est vraiment plus dans un mode, comme je le dis, de dédicace. Et ce dimanche, le 7 décembre, de 14h à 15h30, vous aurez la chance de rencontrer André-Philippe Côté lors d'une séance de dédicace. En fait, André-Philippe Côté, c'est, entre autres, un super BDiste qui mérite vraiment d'être découvert et plus connu, là, qui a remporté il y a plusieurs prix par rapport à ça. Mais il est surtout connu comme étant le caricaturiste du soleil. Et c'est ce livre-là, en fait, De tous les côtés 2025, qui est une rétrospective des caricatures qu'il a publiées en 2025, qu'il va venir nous présenter du côté de la librairie. C'est ce dimanche à 14h. Donc, un livre qui fait depuis 28 ans Ça fait 28 ans qu'il fait une rétrospective comme ça. C'est un livre qui est très populaire, qui s'offre super bien aussi, qui permet de revoir l'année. Des fois, on oublie ce qui s'est passé
ben
pendant
oui,
le reste
ça,
de l'année. Hein.
Parce que les caricatures, tu sais, représentent l'actualité dans le journal et tout ça. Puis c'est une manière un peu ludique, justement, de couvrir l'actualité.
Absolument. Absolument. Puis des fois, c'est un peu grinçant aussi.
C'est ça.
C'est intéressant. Ça, en tout cas, ça permet de revisiter un peu toute l'année. Et c'est quand même quelqu'un qui fait ça depuis une quarantaine d'années aussi, de faire de la caricature. Fait que voilà. J'ai vraiment hâte ce dimanche, le 7 décembre à 14h pour des dédicaces avec André-Philippe Côté. Sinon, je vous amène un peu plus loin. Le dimanche suivant, ce sera au tour de Michel Jean de venir dédicacer des livres. Michel Jean qui a une production quand même assez consistante là, depuis toutes les années qu'il publie, surtout du roman, mais pas que. Donc, c'est quelqu'un qui a commencé à publier là, en 2007-2008, assurément, et qui sort au moins un livre par année depuis ce temps-là. Et là, il a sorti cet automne « Cabassa », qui est une réécriture, c'est même plus que ça, là, on pourrait nuancer longtemps là-dessus, mais c'est il avait écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle Tsunami, et il a décidé de revisiter ce livre-là pour y rajouter tout ce qu'il voulait faire à l'époque, mais qu'il n'osait pas encore faire. C'est quelqu'un qui il est inou, en fait, puis il n'osait pas aller aussi loin dans sa réflexion à cette époque-là. Et là, il a décidé vraiment d'y aller un peu plus intensément, là, puis de faire le parallèle, parce que Tsunami, c'est par rapport au tsunami qu'il y a eu au Sri Lanka en 2005. Et là, il revient à faire un parallèle entre ce que les populations autochtones du Sri Lanka vivent, parce qu'il y a d'énormes tensions là-bas, et aussi ce que les Autochtones ici vivent. C'est très, très, très intéressant. Mais il sera là aussi pour présenter plein d'autres livres comme Koukoum, qui est probablement le livre le plus connu, là, lui, pour lequel il a remporté le prix France-Québec. Il y aura aussi Elle et nous, qui est mon livre préféré de Michel Jean. Donc, il y en aura plein d'autres. Ce sera une occasion exceptionnelle de le rencontrer à la librairie La Liberté. Ce sera sa première visite à ma connaissance de notre côté.
Wow!
Donc, le 14 décembre, de 14h à 16h, venez rencontrer Michel Jean. Je vous rappelle qu'on a plusieurs événements à la librairie La Liberté. C'est un tout petit échantillon que je vous ai présenté aujourd'hui. Pour tout savoir sur les événements, c'est au librairielaliberté.com et sur nos réseaux sociaux, Librairie La Liberté. On offre 10 % de rabais sur présentation de la carte étudiante avant la transaction et nous sommes situés au 1073 de la route de l'église.
Merci grandement, Julie. Utilisez vos rabais étudiants là, pour
ben
vous
oui.
gâter vos proches.
Ben oui, ben oui. Puis venez voir ma guirlande.
C'est incroyable. Ça vaut le détour.
Ça vaut le détour, hein?
Puis en plus, avoir les conseils d'une des meilleures libraires de la ville de Québec. Hein? Fait qu'allez faire un tour à la librairie La Liberté, chers auditeurs.
Ça va me faire plaisir de vous conseiller.
Puis bien, pour notre part, on se retrouve dans deux semaines.
Ouais.
Ça va être la dernière semaine de Chérie, j'arrive, dans deux semaines avant les vacances du temps des fêtes. Puis on pourra faire ensemble une petite rétrospective, peut-être des coups de cœur littéraires de l'année.
Oui, oui, oui.
Ça passe trop vite. J'ai hâte de savoir.
Ça passe vite, mes enfants. C'est qu'on se revoit dans deux semaines.
À dans deux semaines.
Bye bye.
Et pour notre part, chers auditeurs, auditrices, ce dimanche, c'était les GAMIC, gala alternatif de. Gala alternatif de musique indépendante du Québec. Il y a. En fait, aujourd'hui, musicalement, je vais vous faire. Découvrir ou redécouvrir les gagnants et gagnantes des différents prix de cette édition du GAMIC. Et pour commencer, quoi de mieux que de commencer avec le récipiendaire de l'artiste de l'année qui a fait un passage assez marqué autant pendant leurs nombreux spectacles cette année que lors du GAMIC, c'est Angine de Poitrine qui a gagné Artiste de l'année. Et c'est tellement drôle. Ils sont arrivés sur scène, puis tout ce qu'ils ont dit derrière le micro, c'est « Angine de Poitrine », comme ils font dans leur spectacle. Ils parlent pas, hein. Ils parlent jamais.
Je les ai jamais vus encore en spectacle, mais on m'en a parlé vraiment en bien.
C'est vraiment un bon spectacle. Puis j'ai jamais vu Ça faisait longtemps, en fait, quand je les ai vus en spectacle pour la première fois, c'était au Festif de Baie-Saint-Paul, de voir autant de générations réagir de la même manière face à un spectacle. T'sais, ils font leur fameux triangle qui lève au-dessus de leur tête. Ils font danser tout le monde. C'est vraiment un... Je comprends vraiment pourquoi ils ont été nommés artistes de l'année. Ils le méritent amplement. Donc, on va écouter la chanson Torog de Angine de Poitrine, tirée de l'album Volume 1 d'Angine de Poitrine. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive, ici sur les ondes de Schiste 94.3.
Le géant de l'Université Laval remporte la 11e Chiz 94.3, la radio des champions à Québec.
Bon, c'est en fait le grand jour. On décide de voyager ensemble.
Oui, j'ai trouvé un agent qui nous fait parcourir le monde avec sa musique.
Bonjour, on cherche quoi ici?
De la musique de toutes sortes, d'ici et d'international.
Si vous voulez, je pourrais vous conseiller du rock, de l'électro, du new country puis d'autres styles.
Oui!
Ben, je peux vous aider. Vous voulez rire? Alors, prends plus les grandes découvertes musicales ainsi que des belles entrevues. C'est dans le monde d'Éric Arsenault qu'il faut aller.
Je vois dans le document qu'Éric Arsenault, ça a 30 ans d'expérience.
C'est clairement ça qu'il nous faut, c'est une référence.
Ben, voici vos billets. L'embarquement se passe les dimanches aux deux semaines, environ entre 19h et 21h.
Oui, à Chiz 94.3.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Échos de la Résidence, le tout nouveau podcast présenté en collaboration avec le service de résidence de l'Université Laval et la radio Chiz 94.3 FM. Ici, on donne la parole à celles et ceux qui vivent, travaillent et font battre le cœur de nos résidents et résidentes. Les Échos de la Résidence avec Narcisse, tous les lundis de 13h à 14h sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Fans de l'ombre vous invite à découvrir des autrices qu'on a trop souvent mises de côté dans l'histoire littéraire.
Chaque semaine, partez à la rencontre d'une autrice méconnue, oubliée, ayant écrit dans les marges ou n'ayant laissé pratiquement aucune trace.
Au programme, des recherches littéraires, des recommandations de lecture, un segment musical et des invités sporadiques.
Retrouvez-nous tous les jeudis de 14h à 14h30 sur les ondes des Chiz 94.3.
Bisous!
L'ACADEL, c'est ton association étudiante à l'Université Laval. Avec plus de 35 000 membres, nous défendons tes droits, offrons des services pratiques et créons des activités qui font vibrer la vie de campus. L'ACADEL est là pour t'accompagner, t'inspirer et surtout booster ta session.
Bienvenue à votre session de braillage hebdomadaire. Ou pas, on sait pas. Une fois de temps en temps, là. Mais moi et Kevin vous présentent le meilleur de la musique emo d'hier, de maintenant et de demain. Sur les ondes de Chiz 94.3, quand ça nous tente.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie, j'arrive, votre retour culturel ici sur les ondes de Chiz 94.3. Et comme à chaque début de mois pour une chronique mensuelle, je suis très heureuse d'accueillir à l'autre bout du fil Fanny Razurel, qui est agente en communication à la Maison de la littérature. Salut Fanny!
Salut, ça va bien?
Ça va super bien. Très heureuse de te retrouver pour une dernière fois pour l'année 2025.
Et oui, on va vous épargner les blagues de « on se retrouvera l'année prochaine ». Là, je pense qu'on est pensé ça.
Mais une chose qu'il faut mentionner, c'est que cette année, la Maison de la littérature célèbre ses 10 ans. C'est magnifique.
Ben oui, déjà, c'est fantastique. On a des gens qui travaillent avec nous dans notre équipe, qui sont là depuis le tout début, puis c'est vraiment beau à voir comment la Maison de la littérature s'est développée là, durant les 10 dernières années, puis comment elle a fait sa place aussi dans le milieu littéraire de la ville de Québec.
Il y a différents événements là, qui ont lieu justement pour souligner les 10 ans de la littérature à la Maison de la littérature. Et un des événements forts, c'est un fantôme à la maison, un parcours littéraire et un jeu d'énigmes.
Oui, donc ça, c'est un événement sur lequel on travaille très fort depuis assez longtemps maintenant pour concocter vraiment une célébration à la hauteur des 10 ans de la Maison de la littérature. C'est un parcours, comme tu l'as dit, un parcours littéraire et un jeu d'énigmes. Donc, comme certains et certaines doivent le savoir à l'écoute de l'émission, la Maison de la littérature est en ce moment en travaux, seulement de l'extérieur. Mmh. Et elle est toujours accessible, mais dans l'histoire qu'on vous présentera le 13 décembre, ces travaux-là ont réveillé un fantôme et ce fantôme-là crée des problèmes hein, depuis qu'il a été réveillé. Il fait des petites blagues, il cache des objets, il fait toutes sortes de choses pour nuire aux artistes et à l'équipe. Et en fait, le 13 décembre, on invite le public à venir participer au parcours littéraire et au jeu d'énigmes pour se plonger tête première dans le mystère qu'on a créé pour l'occasion, puis découvrir comment mettre fin aux blagues de ce spectre-là.
Il y a différents, tu sais, c'est un parcours littéraire et un jeu d'énigmes, comme on le dit. Donc, il y a différents moments où, justement, le parcours a lieu, puis différents départs, en fait.
Oui, exactement. Donc, toutes les personnes dans la soirée, peu importe dans quel groupe on se trouve, tous les groupes vont faire le même chemin, mais chacun à son rythme. Hein. Le parcours en tout dure environ 1h15, 1h20, quelque chose comme ça. Et à chaque station, on va avoir une énigme à résoudre et une performance qu'on dévoilera pas quand même avec les artistes Marie Blé, Paul Bordelot, Aude Chaumaz, Thomas Langlois, Anaël Turcotte, Christiane Vanet et Richard Valran. Donc, une belle brochette d'artistes là, va pouvoir prendre part à l'histoire, faire vivre des émotions au public. Et notre équipe a testé les énigmes pour être sûre qu'elles seraient à la hauteur du public. Et on m'a dit, parce que j'étais pas là personnellement, mais mes collègues m'ont dit que chez certaines et certains, ça avait causé des frissons.
Hey.
Donc, et ça, c'était seulement les énigmes. On n'avait pas la mise en scène encore parce qu'on faisait juste tester le fonctionnement de toute cette soirée-là pour l'instant. Mais là, en plus, avec les artistes qui vont être là, les performances, le thème qui va vraiment prendre toute son ampleur, le décor, ça risque d'être une ambiance qui va peut-être faire un petit peu peur. Donc, voilà.
J'adore. Fait que pour les gens qui aiment les histoires de fantômes, puis qui aiment la littérature, qui aiment la maison de la littérature, ben c'est possible de venir faire le parcours littéraire ainsi que le jeu d'énigmes le 13 décembre. Comme on le disait, il y a plusieurs départs. On peut réserver notre départ aussi pour être sûr d'avoir une place.
Oui, voilà. En fait, il faut absolument réserver. Les départs se font entre 19h30 et 21h30. Donc, c'est la parfaite occasion pour aller au marché de Noël, aller passer la soirée au marché de Noël, prendre un petit cidre chaud, puis ensuite venir à la maison de la littérature. Il va y avoir une ambiance festive aussi dans le boudoir. Donc, si jamais le public veut arriver un peu avant son départ de parcours, on peut prendre un verre. On va avoir DJ Lovely qui va être avec nous pour mettre une ambiance festive. Toute l'équipe va être là, bien sûr, pour célébrer les 10 ans. Donc, c'est vraiment une soirée sous le signe des festivités. Et donc, les billets sont en vente à seulement 5 $ ou 10 $, dépendamment du budget de chacun et chacune.
Alors, un événement super accessible pour célébrer les 10 ans de la Maison de la littérature. Et là, ma chère Fanny, pendant cette chronique-là, tu as nommé le marché de Noël allemand. Eh bien, on s'entend que la Maison de la littérature est quand même au cœur là, des festivités du marché de Noël allemand. Il y a des contes divers qui ont lieu lors du marché de Noël. Qu'il y en a qui, peut-être que même certains d'entre vous pourront y aller ce week-end. C'est les 4, 5, 11 et 12 décembre et c'est un événement qui est 100% gratuit.
Oui, donc oui, on dirait que je m'étais bien pratiquée pour mes transitions. j'assure que ce n'est pas le cas. C'est juste le hasard. Et en fait, voilà, donc on a des contes d'hiver ce jeudi et vendredi, ainsi que le jeudi et vendredi de la semaine prochaine. C'est à 18h30 et à 15h30, dépendamment de la journée. Donc, on a les artistes Dominique Delonchamp, Dominique Sainte-Marie, André Lévesque-Séoui et Jacques Hébert qui vont conter leurs histoires originales à chacun et chacune d'eux et d'elles. Ça se trouve au jardin de l'Hôtel de Ville dans le Kinder Chalet Ravensburger. Je sais pas comment prononcer ça. C'est un spectacle d'1 heure et c'est en intérieur. Donc, même s'il fait froid, même si la température est pas super, On vous invite vraiment à venir parce que c'est dans un chalet, donc c'est chauffé, c'est à l'abri des éléments, ça vous permet de visiter le marché, d'aller faire une petite pause d'une heure pour écouter les contes, puis ensuite de reprendre la visite juste après les contes pour aller prendre un cidre chaud, aller prendre un petit pain avec du fromage fondu dedans, donc toutes sortes de gâteries comme ça. Et donc, on a tout ce qu'il faut pour remplir l'esprit d'histoire et remplir le ventre de bonnes choses au marché de Noël.
Et le chalet est super, cozy, là, comme j'aimerais bien dire. Là. Fait que c'est vraiment l'espace parfait, que les contes soient à l'intérieur. Là, on vient se réchauffer un peu et nous plonger encore plus dans l'esprit de l'hiver avec les contes d'hiver au marché de Noël allemand. Pour voir l'ensemble de la programmation et des contes, là, vous pouvez aller directement sur le site du marché de Noël allemand. Il y a une programmation là, qui est offerte à tous les jours. Mais si vous voulez être sûr d'assister aux contes d'hiver, c'est les 4, 5, 11 et 12 décembre prochains. Et on le rappelle, c'est 100% gratuit.
Oui, c'est la beauté de la chose.
Et sinon, ouais, si on se replonge à la maison de la littérature, il y a une soirée littéraire qui a lieu cette semaine, le 6 décembre.
Oui, je pense qu'on en a parlé la dernière fois qu'on a discuté ensemble de la programmation de la maison de la littérature, mais ça vaut la peine de le rappeler parce que c'est un événement, encore une fois, qui est complètement gratuit, sans réservation, donc on le rappelle, on le remet dans l'esprit des gens. C'est une soirée qui est organisée par Nadia et Sadiki, qui est aussi qui a comme nom de scène La Bronze. C'est ce samedi, le 6 décembre, de 19h à 22h. Et en fait, c'est une soirée pour écrire en communauté, écrire en groupe et être inspiré par, en fait, l'énergie qui se dégage d'un groupe qui écrit ensemble. Donc, chaque personne peut créer ce qu'elle veut. C'est pas une activité de création de groupe où est-ce qu'on écrit une histoire à 25 personnes, là. Ça sera pas chaotique. C'est vraiment chacun travaille sur son projet solo et la bronze, Nadia et Sadiki va être là pour inspirer le groupe, pour créer une ambiance favorable à l'écriture et à la création. À l'imagination, au souffle des idées. Donc, c'est vraiment un moment pour apprendre, pour pouvoir créer de son côté et peut-être partager ses créations si les gens en ont envie.
Donc, c'est le bonbon d'esprit, cette soirée littéraire avec La Bronze. C'est le 6 décembre et c'est un accès en continu entre 19h et 22h.
Voilà.
Et sinon, on se transporte le mardi 9 décembre à 20h pour une autre activité gratuite qui s'appelle « Émincer les tisons ».
Oui, j'en profite pour nommer en fait le fait que la majorité de notre programmation est gratuite. Environ 80% de notre programmation à la Maison de la littérature est gratuite. Donc, si jamais on cherche une activité à faire un soir de semaine ou la fin de semaine, ça vaut tout le temps la peine de regarder la programmation chez nous parce qu'on a souvent des propositions intéressantes qui sortent un peu de l'ordinaire là, pour offrir aux personnes qui souhaitent occuper leur soirée ou leur fin de semaine.
Je tiens aussi à nommer que ce que j'adore aussi de la Maison de la littérature, c'est que c'est un espace autant qu'on peut découvrir ou redécouvrir des auteurs, autrices qui sont bien établis dans le milieu, mais c'est aussi un excellent moment d'aller à la rencontre des auteurs, autrices de la relève et des grands auteurs de demain. Puis justement, ben, Émincer les tisons, c'est l'événement du cercle des auteurs et des autrices de la relève.
Oui, alors cette année, le Cercle va lancer son recueil de textes de fin de cercle, parce qu'en fait, le Cercle des autoristes de la relève, ça se déroule sur un an. Donc, c'est des artistes qui se qualifient pour être dans le cercle, travaillent ensemble en groupe sur leurs textes, se commandent ce qu'ils créent, cuisinent... voilà, concoctent un petit recueil et à la fin de l'année, il y a une présentation du recueil et un spectacle pour mettre en scène les textes qui ont été créés durant l'année. Donc, le mardi 9 décembre, ce qui va arriver, c'est que Émincer les tisons, c'est un recueil qui va être lancé en ligne, mais il va y avoir un spectacle le soir même, le 9 décembre, et c'est les artistes Vanessa Berger, James Bissonnette, Tristan Bélanger, Victor Desrochers, Maxime Fizet, Audrey Girard, Mélina Lecky, Ève-Marie Marceau et Mélodie Saint-Pierre. Donc, ils vont présenter leurs textes avec des univers qui sont très colorés. Ils vont faire des textes qui sont engagés, ludiques, poignants, émotifs. Et l'objectif, c'est vraiment de plonger le public dans l'univers de chaque artiste qui a fait le cercle durant l'année. Et tout ça va être accompagné en musique. Donc, il va y avoir une belle ambiance pour la soirée. C'est animé par Madeleine Drolet-Valiquette, qui a aussi été un peu la guide, l'animatrice du cercle pour toute l'année 2025.
Et si on a des auditeurs, auditrices qui aimeraient vivre justement l'expérience de participer au cercle des auteurs et des autrices de la relève, comment on peut appliquer quand même assez prochainement?
Oui, je me rappelle plus exactement de la date pour appliquer, mais c'est Première Ovation qui s'occupe de ça. C'est Première Ovation qui a plusieurs programmes de soutien pour les artistes de la relève, autant du point de vue littéraire que musical, en danse et tout ça. Il y a plusieurs volets. Les artistes en art littéraire sont soutenus par le programme littéraire, le volet littéraire, et le cercle des auteurs autrices de la relève provient de ce volet-là. Et oui, on peut appliquer. Il me semble que ça doit être en ce moment ou très bientôt là, en début d'année pour faire partie de ce cercle-là.
Et sinon, on se transporte le mercredi 10 décembre à 19h. C'est le cercle Gabriel Gracias Marquez qui va recevoir Alain Beaulieu.
Oui, Alain Beaulieu, qui est un écrivain et penseur bien d'expérience maintenant. Il est reçu par le cercle Gabriel Garcia Marquez, cercle qui a comme objectif de faire dialoguer les littératures québécoises et latines. Et donc voilà, durant toute l'année, le cercle Gabriel Garcia Marquez reçoit plusieurs artistes invités, autant d'Amérique latine que du Québec. Et cette fois-ci, on a donc Alain Beaulieu qui va être reçu, qui va discuter avec Victor Ramos, qui est l'animateur de la soirée, qui va discuter du regard qu'il peut porter en tant que Québécois sur l'Amérique latine et l'Amérique centrale. Donc, qu'est-ce que ça influence, comment sa culture d'Amérique du Nord peut influencer la relation qu'il entretient avec l'Amérique latine, comment ça a un impact sur son écriture et comment ça se déploie dans le langage et dans sa manière de dire les choses. Donc, c'est le mercredi 10 décembre à 19h et ça aussi, c'est gratuit, mais sur réservation.
Et sinon, on se transporte avec un événement dont vous avez rajouté une supplémentaire.
Oui, on a un spectacle. En fait, la plupart des spectacles qu'on fait à la Maison de la littérature n'ont lieu qu'une seule fois. Mais ça arrive de temps en temps qu'on est capable, avec les artistes, d'ajouter une supplémentaire quand le spectacle est très apprécié par le public. Et c'est le cas pour Contes d'humour et de sagesse. Donc, par le hasard des choses, les artistes étaient disponibles le 17 janvier pour qu'on ajoute un spectacle. C'est un spectacle par Sophie Fauché et Denis Politien, inspiré des contes de Kim Yaroshevskaya, qu'on connaît pour Fanfreluche, son rôle de personnage pour enfants et pour la jeunesse. Elle a écrit de nombreux contes qui sont inspirés par les cultures très internationales. Et donc, Sophie Fauché et Denis Politien vont présenter sur scène les contes de Kim Yaroshevskaya. Et donc, ça, c'est le 17 janvier à 14h. Les billets sont à 20$.
Et pour voir l'ensemble de la programmation des événements de la Maison de la littérature, vous pouvez vous rendre, chers auditeurs, auditrices, sur leur site web maisondelalittérature.qc.ca. www.maisonneuve.ca. Et ben je vous invite aussi peut-être à penser à rajouter la Maison de la littérature dans vos sorties culturelles pour offrir peut-être à vos proches. Moi, c'est des cadeaux que j'adore faire, offrir des billets de spectacle. Donc, pourquoi pas offrir une sortie littéraire à vos proches pour pendant ce temps des fêtes. Merci grandement, Fanny. Et j'ai très hâte de te retrouver en 2026 pour continuer à parler littérature et plus précisément des événements qui ont lieu à la Maison de la littérature.
Oui, on a beaucoup de choses en 2026 qui vont être très plaisantes à vous partager. Donc, à très bientôt.
Merci.
Bye-bye.
Et pour notre part, chers auditeurs, auditrices, on va poursuivre en musique. Comme je vous le disais un peu plus tôt, aujourd'hui, je vous présente les artistes qui ont été récipiendaires, d'un Lucien lors du GAMIC qui a lieu dimanche dernier. On va partir en musique avec Coup de foudre de Béton Armé. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive.
toi. Je me réveille tôt, mais pas avec moi. Je voudrais vivre ce moment de jour. Quand tu vas vouloir me revoir. Dans mon corps, c'est pas une
C'était Fan de toi de Édouard Tremblay-Grenier qui a gagné en fait le prix Espoir 2026 au GAMIC 2025. Bravo à toi, Édouard Tremblay-Grenier, avec la chanson Fan de toi qui était tirée des dernières nouveautés de cet artiste-là qui est paru dernièrement. Alors voilà, on va poursuivre en musique. Là, j'ai envie, faut vraiment que j'aille le temps de vous passer un extrait du GAMIC. Bref, parce que il y avait différentes manières d'écouter ou d'être à l'affût du GAMIC. Il a été diffusé là, en live sur les réseaux, mais aussi ici à Chiz 94.3. Peut-être que vous étiez à l'écoute. Vraiment, il y a eu plusieurs moments là, vraiment touchants lors du GAMIC. Plusieurs artistes également de la ville de Québec qui ont remporté des prix. Entre autres, on a Enfants Sauvages qui ont gagné l'album punk de l'année avec leur dernier album Avant la mort. Il y a également Rox Arcan qui est derrière le groupe Enfants Sauvages et aussi derrière le disquaire Le Knockout. Le Knockout qui a aussi gagné disquaire de l'année. J'ai demandé quand même à Rox avant de passer cet extrait-là, mais j'ai la pub parfaite pour le Knockout. Puis si vous n'étiez pas convaincu d'acheter des disques, eh bien, Rox Arcan, moi, elle m'a convaincu.
Ça fait 13 ans que le Knockout existe, mais on est déménagé au Rolpantum. Puis venez acheter des disques, achetez vos disques. Hey, oui, attendez. Des fois, il y a des artistes, si, ils n'achètent jamais de disques. Je vous connais, je vous watch. Non, je le sais, ils les achètent pas, eux autres, ils stream, allez chier. Mais achetez des disques, tabarnak.
Fait que c'est ça. Arrêtez de streamer votre musique, chers auditeurs, auditrices, puis achetez des disques. C'est vraiment important. C'est une bonne manière d'encourager les artistes et d'encourager également vos disquaires locaux, parce que dans cette économie, c'est pas facile. Bravo aux Knockout pour leur prix et également bravo à Enfants Sauvages pour leur prix album punk de l'année. C'est amplement mérité. Alors voilà. Puis ben si vous n'êtes pas encore allé au Knockout dans leurs nouveaux locaux, ça vaut grandement le détour. Fait que j'ai envie de partir en musique avec une chanson naturellement de Enfants Sauvages. Tellement de chansons que cet album-là fait moi aussi partie de mes coups de cœur de l'année, sans aucun doute. On va écouter la chanson En 33 tours d'Enfants Sauvages. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive ici sur les ondes de Chiz 94.3.
Nous écoutons encore et toujours, tu sais, cet album bootleg de Rimbaud enregistré par Verlaine au studio des Doors à Los Angeles en Californie. C'est le California Dreaming contre New York City dépravé jusqu'à l'usure de l'âme. Nous avons gagné.
Oh,
C'était Capital de l'arsenic de Guntway, chanson titre de leur album qui s'appelle également Capital de l'arsenic, qui a gagné l'album métal de l'année. Encore une fois, le discours du band pendant la remise des prix, ça a été un moment assez émotif pour plusieurs, dont moi. Fait que très, très, très heureuse que ceux-ci ont été gagnants cette année du prix Album Metal de l'année au GAMIC édition 2025. GAMIC qui est le gala alternatif de la musique indépendante du Québec. On s'en va en courte pause publicitaire et au retour, on poursuit en littérature avec votre chroniqueur Alex Tremblay-Lamarche.
Bienvenue à votre session de braillage hebdomadaire. Ou pas, on sait pas. Une fois de temps en temps, là. Mais moi et Kevin vous présentent le meilleur de la musique emo d'hier, de maintenant et de demain. Sur les ondes de Chiz 94.3, quand ça nous tente.
Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Plongé dans les coulisses de la musique, là où son, carrière et enjeux invisibles s'entremêlent, chaque chronique explore l'univers d'une industrie qui façonne autant les artistes que l'expérience des auditeurs. Des contrats aux labels, des géants de la billetterie aux trajectoires singulières de certains musiciens, Out of Control met en lumière ce qui se joue derrière les projecteurs. Une émission pour écouter la musique autrement, au-delà des notes et des refrains, Out of Control, tous les jeudis, 13h, une semaine sur deux, sur les ondes de Radio Chiz 94.3.
T'as envie de t'éclater puis renforcer les liens de ton équipe, de vivre une expérience hors du commun? L'École du rock Ampisson a la solution pour toi. Que ce soit entre collègues ou entre amis, venez participer à une activité de 2 ou 3 heures, durant laquelle vous ferez partie d'un véritable groupe de rock. Et on finit le tout avec une session d'enregistrement. Faites vite, nos calendriers se remplissent rapidement. Informations au ampisson.com.
Étudiants et étudiantes du deuxième et troisième cycle, connais-tu ton asso étudiante, l'Allier? Nos bureaux sont situés à la Maison Marie-Sirois, du 2320 rue de l'Université. Nos heures d'ouverture sont les lundis, mardis et jeudis, de 9h à 12h et de 13h à 16h. Les mercredis, nos bureaux sont fermés et vous pouvez nous envoyer un courrier à allier@allier.ulaval.ca.
Tu tranches, Allier. Tu frappes un animal. Ton char part plus. Puis, une créature bien spéciale te rend visite. On souhaite ça à personne. Sauf à Dominitri et Anna Plume, Dieu donné roi. Parce que là, avec eux, ça fait un ben bon show. Premier acte et Mathilde Eustache présentent Des hamsters dans le frigo, du 18 novembre au 6 décembre. Un spectacle fort en émotion, en musique et en magie. Pour toute information ou pour vous procurer des billets, rendez-vous sur premieracte.ca.
Premier acte remercie ses partenaires de saison. La Caisse des Jardins de Québec, la Caisse d'économie solidaire, Hydro-Québec, Le Soleil et la Fabrique culturelle.
Sinatra, Véranda, Glasper, Davis, Matheny, Mays, Knopfler, Steffi Schock, Herbie Hancock, Slacky, Sirtaki, Charles Hives, Sudden Archives, Jerry Allen, Grand Eugène, Cloney Ellington, Wagner, tous ces artistes et styles et plus encore. Monsieur Papal pour la cassette, rendez-vous à ne pas manquer tous les mardis 20h sur Chiz 94.3 FM.
Vous êtes êtes toujours à l'écoute de Chérie, j'arrive ici sur les ondes de Chiz 94.3, votre retour culturel. Et aujourd'hui, pour cette première émission de la semaine, qui est aussi la première émission du mois et qui est sous le signe de la littérature, aujourd'hui, on finit en beauté avec votre chroniqueur Alex Tremblay-Lamarche. Bonjour.
Bonjour, Noémie.
Alors, 2 décembre 2025, on est une vie avec des propositions, 4 propositions de livres peut-être à offrir ou peut-être aussi s'offrir à soi-même, pourquoi pas?
Oui, ben ça peut être des cadeaux de Noël qu'on fait aux autres ou qu'on se fait à soi. Donc, 4 livres qui se mettent bien sous le sapin.
Le premier livre que tu nous proposes cette semaine, c'est une bande dessinée, Fille du roi, origine, qui est publiée chez Septentrion et qui a été coécrit avec Dom Leblon et Louis Rémillard.
Donc, oui, une bande dessinée sur l'histoire des filles du roi. Septentrion, c'est une maison d'édition qu'on connaît, dont je parle quand même assez régulièrement, qui fait le bonheur des amateurs d'histoire. Et la plupart du temps, on est dans des ouvrages qui sont plutôt, je dirais, des monographies, donc des livres d'histoire avec du texte. Septentrion, quand même une maison qui fait beaucoup de livres avec beaucoup d'images, mais ils se sont pas si souvent aventurés que ça dans la bande dessinée. Quelques bandes dessinées à leur actif qui ont pas mal tout le temps été des réussites. Et là, ils ont décidé d'explorer la question des filles du roi en nous offrant une bande dessinée.
Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va dans les origines des filles du roi. Puis on en parlait juste avant de rentrer en onde. Peut-être l'histoire des filles du roi est peut-être pas nécessairement celle qu'on pense qu'elle est, en fait.
Ben oui, c'est une question que je me posais parce que j'ai l'impression que depuis une trentaine d'années, on n'arrête pas de répéter « fille du roi n'égale pas fille de joie », puis que bon, au final, c'est connu d'un peu monsieur, madame, tout le monde que non, ce n'était pas des prostituées, c'était plutôt souvent des orphelines ou des filles qui n'auraient pas eu la possibilité d'avoir une vie intéressante en France et qui espéraient en avoir une meilleure du côté de l'autre côté de l'Atlantique. C'est ça, pour un historien comme moi, j'ai l'impression que c'est un fait connu, mais la question que je me pose, c'est à quel point est-ce que c'est si connu que ça dans le grand public? Et ce que propose cette bande dessinée-là, justement, c'est de se pencher sur la partie française et sur les origines des filles du roi. On le mentionne, c'est un premier tome qui se centre sur ce qui se passe à Paris. Second tome suivra où il sera davantage question du voyage vers La Rochelle, puis du voyage de La Rochelle vers l'Amérique du Nord. Mais dans ce premier tome-là, on suit vraiment ces filles-là à Paris. On les voit qui sont très, très pieuses. On voit qu'elles se rassemblent. Il y a des inquiétudes par rapport à la suite, mais aussi un certain enthousiasme, etc. Et on voit que ils ont différents métiers, ce genre de choses-là, qu'elles ont des savoir-faire, des connaissances, et que, tranquillement, pas vite, se structure le départ vers l'Amérique et, qu'elle s'embarque là-dedans. Puis que, par la suite, on va avoir vraiment la traversée, mais dans un tome suivant.
Puis est-ce que tu peux nous parler un peu de l'auteur qui est probablement un historien, justement, qui s'est intéressé à l'histoire des filles du roi?
Louis Rémillard, c'est un bédéiste qui s'intéresse énormément à l'histoire. Il a fait une bande dessinée, si je ne m'abuse, qui s'appelle L'Iroquois, qui parlait des rapports de l'histoire autochtone il y a quelques années. Donc, qui parlait de l'histoire autochtone en Nouvelle-France, bande dessinée qu'il a faite il y a quelques années. Pardon, je reformule. Donc, on a là un bédéiste qui s'intéresse à l'histoire et qui a décidé de collaborer avec Dom Leblon pour nous livrer cette bande dessinée qui retrace les origines des filles du roi et comment est-ce que ça se passait à Paris au moment où on prend la décision d'envoyer des filles en Amérique du Nord pour fonder des familles. Parce qu'un des gros problèmes qu'il y avait, c'est qu'il y avait beaucoup d'hommes, mais pas beaucoup de filles. Fait que ça fait pas des familles fortes. Et donc, en envoyant ces contingents de filles-là, on espérait être capable d'amener les hommes à rester plutôt qu'à repartir en France et à fonder des familles pour que la colonie prenne son envol.
Ce que je trouve intéressant dans la BD que tu nous proposes, c'est que ça me semble aussi être écrit justement du point de vue des femmes elles-mêmes.
Ouais. Oui, ben, on suit différentes filles du roi qui sont des personnages fictifs, si je ne m'abuse, et qui ben, nous visent à nous faire comprendre quel était le point de vue de ces femmes-là, qui étaient ces femmes et ben, ce qu'elles ont pu vivre. Donc, on voit bon, les émissaires du roi qui font des annonces, on voit qu'elles sont un petit peu inquiètes, qu'elles se posent des questions, mais c'est vraiment du point de vue des filles du roi qu'on suit l'aventure dans cette bande dessinée. Bande dessinée sur laquelle il y a eu un chouette travail de recherche historique. Les maisons à colombages, bon, on reconnaît Paris, on reconnaît également les costumes. Donc, autant effectivement Monsieur, Madame, tout le monde, autant les amateurs de BD qu'autant les amateurs d'histoire risquent d'y trouver son compte.
Alors, si vous voulez retracer les origines des filles du roi, ben vous pouvez vous procurer cette magnifique BD chez Septentrion. Sinon, tu nous amènes avec Moteur de recherche, des réponses fouillées à vos questions astucieuses de Mathieu Dougal.
Oui, c'est un nom qui va probablement dire quelque chose à plusieurs de nos auditeurs. Si vous écoutez Radio-Canada en début de soirée sur semaine, vous êtes probablement déjà tombé sur Moteur de recherche. Si je ne m'abuse, c'est diffusé genre entre 7h et 8h, quelque chose comme ça. Et ben, l'émission est fort simple. C'est une émission de vulgarisation scientifique. Donc, Mathieu Dougal reçoit des scientifiques qui viennent répondre à des questions. Mais toutes sortes de questions. Puis là, on n'est pas dans des questions qui sont vraiment des grosses questions de science, là, très, très complexes, qui nécessitent des exposés là, des heures et des heures. Mais on est dans des questions qui sont parfois simples, parfois rigolotes. Tu sais, comme par exemple, les bruits de monsieur, ça vient d'où? Pourquoi? Tu sais, je sais pas si ton papa ou c'est ça, des mononcles font de drôles de bruits des fois quand ils se déplient, ce genre de choses-là. Donc, on a de ce genre de questions-là. Dans le cas des bruits de monsieur, c'est que c'est souvent lié à un effort avec le corps. Et donc, ben, hop, tu t'essayes de sortir de ton lazy boy, t'as plus les genoux de tes 20 ans, t'as plus l'aérobie de tes 20 ans. Fait que, donc, le petit bruit de
monsieur. J'ai 100% l'image. Merci de l'avoir offert aux auditeurs et auditrices en même temps. C'était parfait.
Ouais, ben, il a appelé son chapitre Pourquoi les grognements de mon oncle. Donc, c'est quand même assez rigolo. Donc, on a différents chapitres. Donc, on en a un premier sur l'espace avec des questions comme. Pourquoi pourrait-on trouver de la vie dans notre système solaire? Pourquoi est-il impossible d'emprisonner la lumière dans un pot maçon? Comment fait-on pour connaître la forme de notre galaxie, la Voie lactée, si nous sommes à l'intérieur de celle-ci? On a des deuxième chapitre sur les animaux, avec des questions sur pourquoi est-ce que les chats aiment-ils autant les boîtes? Pourquoi est-ce que les chiens choisissent leur endroit de prédilection pour faire leurs besoins? Tu sais, les gens qui ont un chien, ils le savent, là. Tu te prends avec ton chien, là, puis là, hop, il a l'air de faire son pipi ici ou son caca là, mais non, ça va être un petit peu plus loin, puis ça a l'air d'être soigneusement choisi.
Les boîtes, ça, là, je suis très intéressée, parce que moi, j'ai une grande boîte de déménagement que j'ai depuis mon déménagement et que je ne peux plus me débarrasser, donc elle traîne dans mon salon, et maintenant, j'ai même mis une petite couverte dedans parce que c'est l'endroit préféré de mes chats maintenant, puis là, ben, je me sens mal. Je peux pas m'en débarrasser.
Donc, pourquoi les chats aiment-ils les boîtes? Ben, grosso modo, ce que le collaborateur de Mathieu Dugal, Jean Gauvin, nous dit, c'est que, bon, c'est pour différentes raisons. D'abord, les boîtes, c'est des refuges sécurisants. C'est des abris pour les chats. C'est également, bon, des terrains de chasse. Hein. L'idée, c'est de pouvoir se protéger puis après d'être prêt à bondir sur quelque chose, même si ton chat n'a assurément pas besoin de chasser pour être capable de se nourrir. Cet instinct de chasseur reste dans ses gènes et la boîte lui procure ça. Les boîtes retiennent la chaleur. Donc, comme c'est des espaces clos, ben il y a un petit peu plus de chaleur à l'intérieur. Donc, pour un chat, ça peut être un spot intéressant. Il y a également tout l'aspect du jeu. C'est des terrains de jeu pour les chats qui aiment explorer. Puis, ben il y a des études, notamment à l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas, qui ont montré que les chats appréciaient aussi les boîtes pour leur pouvoir anti-stress. Donc, l'idée d'avoir un endroit qui est sécurisant. ça amènerait c'est ça, les chats à particulièrement aimer les boîtes. Et donc, c'est les différentes hypothèses et c'est les différentes raisons qui sont soulevées par l'auteur pour expliquer pourquoi les chats aiment tant les boîtes.
Mais merci, Alex, de nous avoir partagé. Je suis sûre que maintenant, je me sens... Je comprends mieux mon chat. Puis je suis sûre que les auditeurs aussi qui ont des chats, ben, les comprennent mieux. Puis ce que je trouve intéressant dans mon moteur de recherche, c'est que c'est dans l'ouvrage, c'est super varié, là, tous les différents sujets là, qui sont abordés. C'est tout le temps sur un point de vue, justement, scientifique, mais pour autant des éléments qui sont du quotidien, comme les boîtes et les chats, autant que c'est des sujets comme plus poussé un petit peu. Là.
Tout à fait. On a vu premier chapitre espace, deuxième chapitre animaux. On a ensuite un chapitre sur les plantes, un chapitre sur les humains, avec des questions, comme je disais, autant sur les grognements de mon oncle que sur est-ce que les personnes guillotinées souffrent. On commence le chapitre en disant, c'est dur à dire parce que c'est dur à demander à la personne après.
C'est clair.
Mais on a parfois l'impression que la tête continue à bouger encore un petit peu après. Donc, est-ce que le courant arrête pile au moment où on décapite? Possiblement non, mais dur à dire.
Est-ce qu'ils font un parallèle avec les poules dans ce...
Je me souviens plus. J'ai lu il y a quelques semaines, mais je me souviens qu'ils font référence à différents cas historiques où il y a des gens qui ont été décapités. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont mis là-dedans. Des questions comme « pof qui tousse, pof qui gèle ». Donc, on a vraiment plein de questions comme ça. Puis, c'est toujours sous la même formule. On a la question qui est posée, un expert qui vient y répondre et c'est écrit en 3-4 pages. Donc, c'est très, très court. Ça se lit dans l'ordre ou dans le désordre. Si c'est la question des chats et des boîtes qui vous intéresse, vous pouvez aller directement à cette question-là. Si c'est plutôt, la question les questions végétales qui vous intéressent, vous pouvez aller, par exemple, vous répondre à la question « Les arbres sont-ils intelligents? Est-ce qu'ils s'entraident? » et consulter directement ça. Donc, c'est un chouette cadeau à offrir aux gens qui sont curieux de nature. Deux derniers chapitres, peut-être, avant de conclure un chapitre sur la techno. Quand le premier piratage d'un système de communication a-t-il eu lieu? Le numérique est-il une ressource épuisable? Comment avoir une vie numérique plus en accord avec ses convictions écologiques? Différentes questions comme ça. Et dernier chapitre, on est dans l'environnement. Qu'est-ce qu'une empreinte carbone? Quelle est l'empreinte la moins connue par rapport à son importance? Peut-il faire trop chaud pour les trains? Différentes questions comme ça qu'on explore au sein de l'ouvrage. Et donc, moi, je trouve que c'est un chouette cadeau à faire à quelqu'un qui est de nature curieuse. Ce genre de livre qui se laisse bien à la salle de bain ou sur la table de la cuisine, sur la table du salon. Puis là, on a le temps, on en lit 2-3 chapitres, on étanche sa curiosité, puis après, on le laisse traîner là pour que quelqu'un d'autre puisse profiter des nombreuses questions curieuses auxquelles des scientifiques apportent des réponses.
Sinon, pour le prochain ouvrage, c'est un ouvrage qui est parfait pour les amateurs de vélo de votre entourage. La route verte, la plus belle conquête du vélo de Jean-François Pronovo.
Oui, c'est ça. La saison est peut-être un petit peu moins au vélo, quoique, il y a de plus en plus de vélos d'hiver. Mais en 2025, la route verte a célébré ses 30 ans. La route verte, qu'est-ce que c'est? C'est une route cyclable qui vise à permettre aux cyclistes de se promener un peu partout au Québec et de le faire de manière sécuritaire. Dans certains cas, on a vraiment des pistes cyclables dédiées. Dans d'autres cas, on a une bande protégée, relativement protégée, mais au moins une bande avec assez de largeur en bordure de route qui permet de se promener. L'objectif, c'est vraiment le faire autant dans une perspective utilitaire que dans une perspective de tourisme ou dans une perspective de plaisir. Et l'ouvrage est le fait de Jean-François Pronovo qui se décrit un petit peu à l'intérieur de l'ouvrage comme un lobbyiste du vélo. Après une formation en biologie, il est rapidement rentré à Vélo Québec à la fin des années 80. Il a occupé les différentes fonctions, notamment celle de directeur général et celle de responsable des affaires publiques. Et bien, ça l'a amené à être aux premières loges du développement de la Route verte entre 1995 et 2007 en particulier. Et donc, ce qu'il nous propose, c'est de revenir sur les débuts de la Route verte et comment ça a pris son envol. Et donc, comment est-ce que ça a débuté? On est en 1994, Jacques Parizeau est premier ministre. Les péquistes sont à la veille du référendum. L'an 2000 approche et ben, le gouvernement péquiste espère faire un projet qui puisse rallier les jeunes, qui puisse être inspirant, puis qui puisse, comment dire... mobiliser les jeunes, particulièrement dans un contexte où l'an 2000 approche, on voit qu'il y a une nouvelle génération qui s'en vient, mais aussi il y a le référendum qui approche, on veut mettre les jeunes de notre bord. Et donc, ben, il reçoit un appel du député Gilles Barry, qui était plutôt vélo sympathique et qui va lui dire, ben, on aimerait ça développer un projet de vélo, là. Qu'est-ce que t'en penses? Y aurait-tu moyen qu'on se penche là-dessus puis qu'on développe quelque chose? Et donc, c'est comme ça que ça commence. Puis, ben, de fil en aiguille, on va faire les premières pistes cyclables. Ce qu'on voit, c'est que, bon, il va y avoir plusieurs embûches tout au long de l'histoire de la Route verte, mais également plusieurs alliés, notamment des cyclistes sur la scène internationale au Vermont ou des gens en Belgique qui vont procurer des fois un petit coup de main. On voit Jean-François Pronovost qui, à un moment donné, se ramasse en Belgique pour étudier un petit peu le réseau cyclable là-bas, puis en ramener une expertise ici, notamment à Newport, sur la côte belge. On voit également qu'il va y avoir des moments où il va y avoir des cyclistes du Vermont qui vont essayer d'apporter leur soutien, puis des militants. On voit que l'histoire du vélo, ben, c'est une histoire de militants, que ça n'a pas toujours été facile de convaincre les maires de
ouais,
s'investir dans
ça,
le vélo.
Si tu veux faire une route qui longe justement toutes les différentes villes et villages, ben il faut quand même que les différents maires soient d'accord. Là. C'est pas évident.
Tout à fait. Et donc, ben, ça, c'est quelque chose qu'on voit au départ. Il va y avoir une tournée du Québec qui va être faite de Ville-Marie à Gaspé par une équipe qui va essayer d'aller à la rencontre des gens, puis bon, de convaincre du bien fondé de cette route verte-là. Puis, ben, on voit que c'est ça, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, il va y avoir des moments où ça va davantage prendre d'expansion un petit peu plus vite, puis des moments où, bon, ça stagne un petit peu plus. Et, ben, la conclusion à laquelle en arrive Jean-François Pronovost, c'est, ben, est-ce qu'il y aurait moyen que la route verte devienne une route nationale? Puis, bon, vite de même, on peut se dire, ben, c'est juste un nom, là, ça change pas grand-chose. Mais devenir une route nationale, ben, ça changerait quand même un peu les choses parce que, ben, ça permettrait d'avoir un statut qui accorderait une reconnaissance, mais permettrait de protéger davantage la route verte.
Oui,
puis faire
sûr.
Qu'il y aurait plus autant d'embûches lorsqu'on veut la développer, lorsqu'on veut l'entretenir. Et donc, ça assurerait une meilleure pérennité de la route verte, autant dans les milieux, disons, plutôt sympathiques aux cyclistes que dans les milieux qui le sont un peu moins. Et donc, c'est ce par quoi il termine son ouvrage. Fait que c'est un livre qui risque d'intéresser autant vos amis qui font du vélo que vos amis qui s'intéressent à l'aménagement du territoire ou à l'histoire politique, parce qu'il y a beaucoup de politique derrière cette route verte-là. Et ben tout ça, petit ouvrage fait par un acteur de la route verte, un militant qui a beaucoup travaillé pour qu'elle advienne et donc qui nous livre un petit peu des secrets qui n'étaient pas toujours dans les médias.
Et sinon, pour le dernier ouvrage qui peut s'adresser aux fans d'art visuel, mm-hmm. peut-être, qui nous écoutent, Frère Jérôme, le geste libre de Gilles Lapointe. Parle-nous donc un peu de Frère Jérôme, qui était un grand artiste également.
Oui, de façon franche et honnête, souvent qu'on pense aux artistes automatistes, aux artistes modernes au Québec, on pense à Paul-Émile Bourdua, on pense à Fernand Leduc, on va penser à Riopel. Donc, tous des grands noms de la peinture du milieu du 20e siècle, début de la deuxième moitié du 20e siècle, qui ont marqué le Québec et qui ont amené le Québec à se tourner vers un art beaucoup plus abstrait, beaucoup moins figuratif. Et ben, le nom de frère Jérôme est souvent pas là parce que, bon, c'est un religieux, parce que c'est un enseignant. Puis même s'il a une œuvre de plus de même si son œuvre compte plus de 3000 toiles, ben, souvent, il n'est pas autant cité que les autres.
3000 toiles? Ouais. Attends, on va. 3000 toiles. C'est énorme.
Mais il a peint, en fait, pendant plus de 60 ans. Il a enseigné pendant plus de 60 ans. C'est complètement fou. Il a enseigné à plus de 10 000 personnes. Parce que frère Jérôme, bon, son nom le dit, c'est un religieux. Il est né à Charlebourg et assez rapidement, il va joindre la congrégation des frères de Sainte-Croix. Puis, ben, il va enseigner au collège Notre-Dame de Bellevue à Montréal. Pendant pratiquement toute sa carrière, il y a un moment qui correspond à celui où Paul-Émile Bordua va lancer le refus global et où il va prendre position en faveur de Paul-Émile Bordua. Donc, à ce moment-là, ben, on va le tasser un peu parce que ben, c'est tout l'intérêt, j'ai envie de dire, de frère Jérôme, c'est qu'il est dans un milieu qui est plutôt conservateur, l'Église. Conservateur, du moins, sur certains plans. Hein. L'Église a quand même été une force progressiste au Québec, tout en étant une force conservatrice. Il y avait le meilleur comme il y avait le pire en son sein. Et donc, ben, ses propos sur l'art abstrait, sur les artistes qui encourageaient, ont déplu un peu à sa hiérarchie. Ça va faire que pendant une dizaine d'années, il va se ramasser dans les Laurentides, en Estrie, etc. et un peu plus en retrait avant de pouvoir revenir enseigner à Montréal et recommencer à avoir l'influence qu'il avait.
C'est intéressant parce que quand même, dans la religion catholique, l'art, on fait quand même partie.
C'est super important.
C'est super important, mais là, que ce frère-là fasse peut-être un art qui n'était pas figuratif des différentes personnes ou emblèmes de la religion, bien là, c'était comme problématique. C'est vraiment... intéressant.
Oui, ben c'est ça qui est assez intéressant, c'est toute le rapport entre le religieux et entre la modernité, l'abstrait, l'art qui est développé par Gilles Lapointe, qui est professeur associé d'histoire de l'art à l'UQAM. Et donc, c'est ce que nous propose cet ouvrage, de découvrir la vie de frère Jérôme, donc de ses débuts à Charlebourg jusqu'à sa mort à la fin des années 1990, pardon. Un des éléments que j'ai bien apprécié, qui n'est pas si souvent que ça là dans des ouvrages, mais qui l'est de plus en plus, c'est qu'on ne s'arrête pas à la mort du peintre. On s'intéresse aussi à ce qu'il est advenu après sa mort, de son œuvre, de son influence. Et donc, comment est-ce que son œuvre continue à vivre au-delà de sa propre vie? Donc ça, c'est un chapitre que j'ai trouvé particulièrement intéressant à la fin. Puis on voit, ben, par exemple, il a contribué à former des artistes comme Raoul Duguay, Diane Dufresne. Donc, ça a été un grand professeur, assez avant-gardiste, assez à l'écoute de ses élèves, assez à l'écoute aussi des couleurs, des formes, du geste, et qui a permis au Québec de prendre un envol artistique assez important. Donc, il y a tout le travail de pédagogue qu'on voit dans l'ouvrage, mais aussi tout le travail artistique fait par frère Jérôme. On est dans un ouvrage qui tient davantage du catalogue d'exposition que de la monographie. Et donc, ça veut dire beaucoup d'images couleurs. Donc, c'est un ouvrage qui est autant intéressant à lire que beau à regarder avec les yeux. Il y a pratiquement des images à chaque page qui nous permettent de découvrir certaines des 3000 œuvres de frère Jérôme. Et bon, ben.
Il y en a qui sont quand même assez. Sombres, là. Il y en a qui sont très colorés, mais tu sais, on voyage dans les différents états d'esprit et états créatifs, justement, de cet artiste.
Oui, tout à fait. On se rend compte que c'est quelque chose qui est très intérieur, au final, pour lui. Et ben, ça nous permet vraiment de découvrir toute son influence artistique, tout son rapport à la peinture et bon, ben, comment il a pu avoir une empreinte qui est plus discrète. Parce que les professeurs, c'est rarement ceux qui dont on parle. Ceux dont on parle, c'est souvent leurs élèves. Et donc, il faut penser à ces 10 000 personnes-là qui l'ont formé, qui ont probablement en partie, et dont une petite partie est probablement devenue prof, qui ont eux-mêmes reformé des gens. Et donc, l'héritage artistique de frère Jérôme au Québec est considérable. Il y a 3-4 ouvrages qui existaient sur Frère Jérôme, beaucoup, beaucoup d'articles, mais à peu près seulement 3-4 ouvrages qui dataient quand même de plusieurs années, voire de plusieurs décennies. Et donc, cette nouvelle biographie, ben enfin, je dirais c'est plus qu'une biographie, ce catalogue qui fait le point sur l'œuvre de Frère Jérôme est le bienvenu et permet vraiment bon, d'aller un petit peu plus loin.
Merci grandement, Alex, pour cette chronique. Peut-être rapidement nous faire un petit résumé là, des quatre œuvres que tu nous as présentées aujourd'hui.
Donc, on avait Fille du roi, Origine, une bande dessinée de Dom Leblond.